Il est exactement 9h.
RTL Matin.
Le 9h.
Maxence Lambrec, Bernard Poirette.
Bonjour Maxence.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
Point d'orgue de cette semaine de commémoration, ce matin, là, à 11h, place de la République à Paris.
Il y a un an, des millions de Français se levaient contre le terrorisme. Hommage tout à l'heure aux 149 victimes tuées l'an dernier par des djihadistes en France. Dans ce journal, le témoignage exclusif de Louis Pasquier, menacé de mort parce qu'il rendait hommage à Charlie Hebdo dans son lycée. Nous serons aussi en ligne avec une jeune maman, Sophie Kaziki, de retour du bastion de l'État islamique en Syrie. Le terroriste abattu il y a 4 jours par la police devant le commissariat de la Goutte d'Or à Paris, résidé auparavant dans un centre de réfugiés en Allemagne. Nous serons sur place dans un instant. Regain de tension à Nantes autour du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Les CRS ont dû utiliser les gaz lacrymogènes cette nuit pour rétablir la circulation sur le périphérique. Et puis tous les sports dans ce journal. Zidane acclamé pour ses débuts à la tête du Real Madrid. Premier match, première grande victoire. Et puis baptême réussi pour le tout nouveau stade de l'Olympique Lyonnais.
Toujours ce même devoir de mémoire. Nouvelle journée de commémoration ce dimanche, un an tout juste après l'immense mobilisation populaire qui avait suscité les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercacher.
Un rassemblement historique, souvenez-vous, plus de 4 millions de personnes dans les rues de France pour crier leur amour de la liberté, dont plus d'un million à Paris. Une marée humaine unie contre le terrorisme avec plus de 50 chefs d'État et de gouvernement du monde entier. Nouvel hommage donc ce matin, place de la République. À 11h, François Hollande dévoilera une plaque à la mémoire des 149 personnes tuées par des djihadistes en 2015. Puis le chœur de l'armée française interprétera « Le temps des cerises », ce chant d'amour devenu hymne révolutionnaire.
Nous chanterons le temps des cerises et guerre signal et merle moqueur seront tous en fête.
Puis Johnny Hallyday entonnera, lui, sa chanson un dimanche de janvier. Après une minute de silence, la Marseillaise résonnera sur cette place devenue en un an un lieu de mémoire nationale.
Et ce matin, RTL a choisi de prendre des nouvelles de Louis Pasquier.
Ce jeune lycéen avait été menacé de mort car il souhaitait rendre hommage au caricaturiste de Charlie Hebdo dans le journal de son lycée baptisé La Mouette Bayonnée. En septembre dernier, nous vous révélions sur RTL que sa maison avait été saccagée. Depuis, Louis a jeté l'éponge et quitté la rédaction en chef de ce journal. Mais Arnaud Touche, il garde les mêmes ambitions et les mêmes priorités.
Son sourire et ses yeux marrons ne laissent rien entrevoir de son année chaotique. Louis prépare aujourd'hui son bac, économique et social. Malgré toutes ses pressions, le jeune homme n'a rien lâché. Il est resté dans le même lycée, mais une partie de lui-même a changé en un an.
Ça va beaucoup mieux. Je ne reçois plus de menaces. J'ai dû, par contre, quitter la rédaction de mon journal qui était La Mouette Bayonnée à cause d'une dernière menace qui était un coup fatal. Ma vie était en danger. Ça devenait assez compliqué à gérer, à la fois pour moi, pour mes parents. Mais il y avait toute l'équipe de La Mouette qui était aussi potentiellement en danger. Donc ça venait trop pesant, impossible à tenir.
Un soir de septembre, le point de non-retour est franchi. Après les menaces, écrites, les enveloppes avec des balles et enfin des actes. Des inconnus pénètrent dans la maison familiale et saccagent tout.
Des journaux de Charlie et de La Mouette ont été incendiés sur le tapis du salon jusqu'à l'arrachage d'affiches de Charlie Hebdo. Donc c'était quelque chose de très symbolique et puis de très fort qui nous a fait tous très mal à la maison. Donc voilà, j'ai décidé de partir.
Partir, mais ne pas donner raison à ces corbeaux qui ont pollué sa vie pendant plusieurs mois.
Aujourd'hui, si je devais porter un message, c'était de plus s'intéresser à la presse jeune, de lui donner plus de moyens pour que les jeunes s'expriment librement et en toute sécurité.
Louis est devenu majeur et aujourd'hui, il sera place de la République pour défendre la liberté d'expression qui lui est si chère. Et toujours le même rêve de gamin en tête, celui de devenir journaliste.
Reportage exclusif de RTL, signé Arnaud Touche.
Dans ce contexte, l'enquête se poursuit autour de ce terroriste abattu il y a 3 jours par la police devant le commissariat du 18e arrondissement de Paris.
On a appris hier soir que ce jeune Tunisien résidait auparavant dans un foyer destiné aux réfugiés en Allemagne. Tariq Belkacem a vécu dans ce centre d'accueil situé entre Düsseldorf et Dortmund, Blandine 1100. C'est en l'ouest du pays.
Oui, c'est donc à la demande des enquêteurs français que la police allemande a perquisitionné hier ce logement dans un foyer de réfugiés à Recklinghausen, dans l'ouest du pays. Donc, la police allemande indique qu'elle n'a pas d'indice d'éventuelles autres attaques en préparation. Elle n'a pas précisé s'il s'agissait d'un demandeur d'asile, mais plusieurs agences de presse citant des sources proches du dossier affirment que c'était le cas. Alors, selon le journal Welt am Sonntag, aujourd'hui, l'homme avait demandé l'asile sous le nom de Walid Salihi. Toujours selon le journal, il s'était fait enregistrer sous 4 noms différents en Allemagne et avait donné plusieurs nationalités, syrienne, marocaine et géorgienne. Welt affirme encore qu'il avait attiré l'attention sur lui en septembre 2015 parce qu'il avait peint un sigle de l'État islamique sur un des murs du centre et qu'il était donc classé du coup comme potentiellement dangereux. Le Spiegel affirme de son côté qu'il avait aussi posé devant un drapeau de l'État islamique dans le centre de Recklinghausen, centre dont il avait disparu en décembre dernier.
Merci Blandine Milsan en direct de Berlin pour RTL ce matin. Et par ailleurs, celle qui se présente comme la mère de cet homme vient de déclarer « Pourquoi ont-ils tué mon fils ? Il est allé au commissariat pour son passeport, il n'a rien fait », ajoute-t-elle. « La France a tué mon fils, je veux défendre ses droits ». Fin de citation.
Et nous avons découvert cette semaine qu'au moins 220 Françaises ont rejoint désormais les rangs de l'État islamique en Irak et en Syrie.
Les femmes représentent maintenant un tiers des djihadistes français. Nous allons essayer de comprendre ce phénomène. En ligne avec nous, Sophie Kaziki, qui vient de publier chez Robert Laffont « Dans la nuit de Daesh ou la confession d'une repentie ». Bonjour.
Bonjour.
Vous avez donc une trentaine d'années, vous êtes originaire d'une famille catholique pratiquante du Cameroun et vous êtes convertie à l'islam et début 2015, vous êtes partie à Raqqa en Syrie avec votre garçon de 4 ans. Pourquoi partir là-bas ?
Bah écoutez, j'ai été amenée là-bas, enfin, je suis partie là-bas pour rejoindre des personnes qui m'avaient promis de pouvoir travailler, enfin disons faire du bénévolat là-bas un temps dans, dans une maternité. Enfin, au centre de Raqqa.
C'est des Français qui étaient à Raqqa et qui invitaient dans leur entourage à venir les rejoindre. Et c'était venir, quoi le message qui vous a plu ?
C'est venir voir comment ça se passe. Ça ne bombarde pas, ce n'est pas si dangereux. Un parmi eux savait ce qui se passait justement dans cet hôpital, dans cette espèce de maternité, et connaissait justement mon intérêt pour le bien-être humain. D'aider les femmes, les enfants, et voilà. Au bout d'un moment, j'ai fini par justement croire ce qu'ils disaient, avoir confiance en eux, puisque ces personnes-là, je les connaissais d'ici, pour me persuader du côté non nocif de cet État et de ces personnes. Voilà.
Mais vous ignorez que là-bas, c'était le bastion de l'État islamique ?
Non, je n'ignorais pas que c'était le bastion de l'État islamique.
Et quelle était votre vie quotidienne à Raqqa et celle des femmes en général, très pratiquement ?
Nous, ça a été assez... assez bref. Donc c'était cet hôpital où j'ai pu faire du bénévolat pendant un peu plus d'une semaine, chose que j'ai arrêtée très très vite en me rendant compte du comportement de certaines femmes justement au sein de cette maternité.
Qu'est-ce qui se passait ?
Ces gens se comportaient de manière, tout ce que vous pouvez imaginer de pire et de rejetant et envers la population syrienne. Et très vite, j'ai demandé à ces personnes-là de nous faire rentrer. Et à partir de là, je me suis rendu compte que ça ne serait pas... aussi facile que ça avait été promis.
Ils vous ont laissé partir facilement ou vous êtes enfui ?
Non, pas du tout. On a été enfermés dans l'appartement où nous étions pendant plus d'un mois. Ensuite, avec des menaces frappées quand ils se sont rendus compte que je ne pratiquais plus cette religion. Parce que moi, je leur ai dit très clairement le dégoût qu'ils m'ont donné par rapport à cette religion, même s'il serait qu'il ne faut pas faire d'amalgame.
Et finalement ?
Et c'est à partir de cet endroit-là que l'occasion s'est présentée à moi pour nous enfuir avec mon enfant.
Ce matin sur RTL, que voulez-vous dire à des jeunes auditrices qui peut-être auraient dans l'idée de partir en Syrie comme vous l'avez fait ?
Écoutez, n'y allez pas dans cet état tenu par les gens de l'État islamique, par Daesh. Il est impossible de pratiquer, d'y aller sans être bloqué pour d'autres choses. Voilà. En général, en arrivant là-bas, ils vous imposent leur manière de voir les choses, c'est-à-dire pour les femmes, se taire, ne plus exister. Et pour les hommes, on sait très bien, prendre les armes, aller tuer et se faire tuer. Donc voilà, n'y allez pas parce que vous n'aurez à aucun moment l'opportunité de faire ce pourquoi vous êtes venu.
Sophie Kaziki, merci. Je rappelle le titre de votre livre paru chez Robert Laffont, « Dans la nuit de Daesh » ou « La confession d'une repentie ».
RTL, 9h10.
Après une journée et une soirée très agitées à Nantes, les opposants au futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes ont finalement quitté le périphérique de la ville.
La circulation a pu être rétablie sur le pont de Cheviré qui enjambe la Loire cette nuit. Les forces de l'ordre ont dû intervenir vers minuit avec des gaz lacrymogènes pour faire fuir quelques dizaines de tracteurs. Les manifestants réclamaient l'arrêt des procédures d'expulsion qui touchent en ce moment 4 agriculteurs et 11 familles sur le site du futur aéroport.
Les grands patrons français adressent ce matin une lettre ouverte au chef de l'État. Ils lui réclament davantage de flexibilité.
Avec un objectif, faire pression sur l'exécutif à moins de 10 jours de la présentation du plan d'urgence pour l'emploi. Ces dirigeants réclament un contrat de travail agile, prévoyant un plafonnement des indemnités prud'homales. Ils demandent aussi dans les colonnes du journal du dimanche une exonération des cotisations sociales pendant 2 ans pour toute nouvelle embauche dans les PME. Demain, le Premier ministre recevra la plupart des responsables syndicaux et patronaux à Matignon à ce sujet. Alors que le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, approuve lui ce message, Philippe Corbet, il continue son opération séduction auprès des patrons au Salon des nouvelles technologies à Las Vegas.
Oui, les blocages du marché du travail, c'est justement ce que cite Sramana Mitra à propos de notre pays. Cette entrepreneuse à succès de la Silicon Valley aimerait croire à la révolution culturelle française qui est venue vanter ici Emmanuel Macron, mais elle regrette que la créativité tricolore soit bridée par notre système social du contrat de travail aux 35 heures.
Ces problèmes de législation doivent vraiment être réglés et il faut aussi que ce soit plus facile de virer quelqu'un. Si quelqu'un est incompétent, il faut que je puisse le virer. Les lois rigides sur le travail, c'est très mauvais pour les entrepreneurs.
Le ministre de l'économie d'un gouvernement socialiste n'a pas la même liberté de parole, mais au fond, il déplore lui aussi, avec d'autres mots, ces mêmes blocages.
Ce qui est vrai, c'est que quand on innove, on prend plus de risques. On doit être en situation de pouvoir échouer plus facilement.
Et je crois que de virer des gens, peut-être.
Et donc, en effet, de devoir se séparer de certains salariés, en voulant protéger les salariés, on crée parfois des rigidités qui fait que ceux qui prennent le plus de risques préfèrent le faire ailleurs parce qu'ils disent « le jour où j'ai un problème, je serai bloqué ». C'est ça qui est très important, réduire le coût de l'échec.
On n'a pas tout fait pour l'emploi, répète Emmanuel Macron, en espérant peser dans les prochains jours pour que l'ultime plan du quinquennat soit audacieux.
Philippe Corbet, le correspondant de RTL aux États-Unis. Et puis, dans l'actualité à l'étranger, il y a aussi cet incroyable entretien entre le baron de la drogue évadé El Chapo et l'acteur américain Sean Penn.
En pleine cavale, le narcotrafiquant mexicain a rencontré la star américaine. Le contenu de cet entretien a été publié tout à l'heure par le magazine américain Rolling Stone. Cette entrevue a aidé ensuite la police mexicaine à mettre la main sur l'un des hommes les plus recherchés au monde. On apprenait un peu plus tôt que le Mexique ouvre la voie à l'extradition du narcotrafiquant vers les États-Unis. Il a été arrêté, hein, je vous le rappelle, après une cavale qui aura duré 6 mois.
En France, place à un dimanche Mossad côté météo, mais peut-être tout de même allez-vous faire les soldes d'hiver.
Premier week-end des soldes, en effet, et pour faire vos courses plus tranquillement, certains grands magasins ont mis en place une initiative assez originale, offrir des séances de cinéma gratuites pour les enfants de 3 à 14 ans. Alors l'idée, c'est de permettre aux parents de faire leurs courses, l'esprit libre. C'est le cas dans plusieurs centres commerciaux de la région parisienne, le Forum des Halles, les 4 temps à la Défense. Mélanie Barbotin, les enfants y trouvent aussi leur compte en fait.
Pour faire plaisir à ses 3 enfants, Najma leur achète des pop-corn. C'est la première fois qu'ils vont au cinéma tout seuls pendant qu'elle va profiter des soldes.
Si je veux faire la rayon ou regarder des tailles, des pointures, des chaussures, des vêtements, je suis obligée de regarder mes enfants qui suivent derrière. Moi, je ne suis pas tranquille.
Et Chloé, sa fille de 10 ans, ne s'en plaint pas.
Je préfère quand même voir Snoopy, parce que j'aime bien Snoopy. Mais je vais faire les magasins après aussi.
Pour rassurer les parents, 9 animatrices surveillent les enfants de 3 à 14 ans.
Il y a pas mal d'animateurs qui sont sur les lieux, donc... Je pense qu'ils ne devaient pas avoir de soucis. En plus, il y a la sécurité qui fouille les sacs.
Et pour être sûr que chaque enfant retrouve bien ses parents à la fin, tout est prévu.
Là, je suis en train justement de remplir les petits bordereaux avec l'identité de l'enfant, le nom, un numéro de téléphone. Et ensuite, on a un coupon qu'on garde pour mettre dans un tour de cou, ainsi qu'un bracelet qui est une double sécurité, on va dire.
À tout à l'heure, d'accord, Minou ? Bon Snoopy !
Najma part sereine faire son shopping. Ses enfants, eux, ont 1h20 de dessin animé pour dévorer leur pop-corn.
Un reportage RTL de Mélanie Barbotin.
Il est 9h14.
RTL Sport.
À la une du journal, l'équipe ce matin, Maxence, une belle photo de Monsieur Zidane, costume, cravate noire, chemise blanche, en train d'applaudir ses joueurs. Et ce titre de nos confrères, là, en capitale, ça promet.
Eh bien oui, ça promet, car le Real Madrid a écrasé hier soir la Corogne 5-0. C'était le tout premier match de Zizou comme entraîneur du Real. Le Real qui n'est maintenant plus qu'à 2 petites longueurs du leader barcelonais. Dans le stade Bernabéu hier soir, Mathias Valton, une très belle fête.
Zizou, 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 Zizou.
Sorti du stade Santiago Bernabéu hier soir, les supporters n'ont qu'un nom à la bouche,
celui de leur sauveur, Zinedine Zidane.
Avec Zidane, il y a enfin du changement. Ça, c'est le vrai Real, messieurs. Zidane, c'est un mythe, c'est notre idole. Et avec lui, c'est déjà une autre histoire.
L'histoire de Zidane, entraîneur du Real, commence donc avec un festival de buts. Et après 5 mois d'ennui, les supporters madrilènes revivent et reprennent espoir.
J'ai vu l'effet Zidane. Ils ont été bien plus offensifs. Ils ont joué l'attaque comme Zidane l'avait annoncé. Et je suis sûr que cette année, grâce à lui, on va gagner au moins un titre.
En un seul match, Zidane a convaincu tout le public madrilène qui n'a désormais plus qu'un seul souhait.
Vive Zidane ! Qu'il reste ici pendant 20 ans, qu'il ne parte pas, qu'il reste même pour toujours.
L'histoire d'amour entre Zidane et le Real Madrid dure depuis 15 ans. Et ce n'est donc peut-être qu'un début.
À Madrid, reportage RTL de Mathias Valton.
Autre baptême, celui du tout nouveau grand stade de Lyon. Baptême réussi puisque les Lyonnais l'ont emporté 4-1 face à 3.
L'OL, 6e de la Ligue 1 de football, Will Mesanas, avec donc un tout nouvel écrin porte-bonheur pour l'instant.
Absolument, avec comme un symbole ce premier but signé Alexandre Lacazette, l'homme que l'OL avait justement mis à l'honneur dans sa campagne d'affichage pour promouvoir son grand stade. Le seul aussi à clamer haut et fort depuis le début son envie d'entrer ici dans l'histoire. Un joueur évidemment qui ne boudait pas son bonheur au coup de sifflet final.
Oui, une vraie fierté. En plus, encore mieux, je pense que ça soit un petit Ducru qui marque dans le grand stade. Quoi qu'il arrive, on l'enlèvera pas. Si un jour on va encore changer de stade, il y aura toujours mon petit nom.
Fierté aussi, mais surtout soulagement chez son nouveau coach Bruno Genesio. Même moyen, l'OL a égayé la soirée en mettant fin en Ligue 1 à 2 mois d'un succès.
Oui, on voit encore qu'on a des stigmates cette série-là. Mais par contre, on a su se révolter et on a réussi à renverser la tendance, ce qui était très important.
Sans doute davantage à écouter Jean-Michel Aulas une fois la pression retombée, ému incontestablement de voir son parc OL bien né.
Vraiment, c'est un moment inouï dans ma carrière. Je pense que c'est dur à dire peut-être pour ma famille, mais c'est peut-être le plus beau jour de ma vie.
Seule fausse note, l'attitude de son joueur Claudio Beauvue, le Lyonnais qui a eu la très mauvaise idée de célébrer son but en chambrant son propre public.
Willy Mesanas dans le nouveau stade de Lyon qui attend encore avant un nouveau nom. On l'attend d'ici quelques mois après l'Euro de football où il y aura plusieurs matchs. Les autres résultats de cette 20e journée de Ligue 1, c'est la victoire d'Angers contre Caen 2-0. Angers prend la 2e place de la Ligue 1 après le match nul de Monaco 2-2 contre le Gazélec d'Ajaccio. 2-2 aussi entre Rennes et Lorient. Bordeaux est allé battre Montpellier 1-0. Toulouse a battu Reims 3-1, mais les Toulousains restent dans la zone rouge à la 18e place. Et puis à suivre, l'ultime combat des volleyeurs français cet après-midi à 16h30. Ils affronteront à Berlin en finale du tournoi olympique. Les Russes, si les Bleus l'emportent, ils participeront au JO de Rio cet été. Autrement, ils devront franchir de nouveaux barrages. Point positif, les hommes de Laurent Tilly ont déjà battu les Russes en début de semaine en phase de poule 3-7-1. Hier, ils ont battu en demi la Pologne 3-7-0. Un tout autre style de sport. Enfin, vous prenez un stylo, vous grattez la tête, puis vous cochez 6 bons numéros et Bernard, vous pourriez devenir milliardaire.
Bah c'est la loterie, non ?
Avis aux amateurs, en effet, aux États-Unis, mercredi prochain, vous pourrez remporter la plus grosse cagnotte de l'histoire dans le monde. Hein. 1 milliard 300 millions de dollars. Oui, 1 milliard 300 millions de dollars. Des milliers de Mexicains franchissent déjà la frontière pour aller jouer à ce Powerball aux États-Unis.
Peut-être qu'Emmanuel Macron, avant de rentrer, va gratter le truc aussi, on ne sait jamais. Il pourra renflouer les caisses de l'État comme ça. Merci beaucoup, Maxence Lambrecq. C'était le journal de 9h.
Vous écoutez RTL.